John m'a demandé, et il vous a annoncé ce matin, de vous parler d'abord du Conseil national des évangéliques de France, ce que je vais faire. Et on viendra à la question de l'évangélisation après. C'est pas sans lien, mais quand même, je vais d'abord faire mon quart d'heure de pub. Alors, le Conseil national des évangéliques de France, c'est un organisme récent. Il a été fondé en 2010. Mais c'est en fait une histoire plus ancienne. C'est une histoire qui date de la fin des années 90. Et pour que vous compreniez ce que je vais vous raconter, je vous fais un tableau rapide de la situation à la fin des années 90. Il y a, en termes d'organisation qui regroupe les évangéliques, trois organismes. Vous avez la Fédération protestante de France, la plus ancienne, qui regroupe et les luthériens et les réformés et les évangéliques, mais seulement 25% des évangéliques. Vous avez l'Alliance évangélique française, qui est ancienne, mais qui, elle, ne regroupe que des personnes et des œuvres, pas des unions d'église. C'est un petit peu changé vers la fin, mais en gros. Ça veut dire que c'est une organisation qui, par exemple, propose chaque année, en début d'année, la semaine universelle de prière. Vous devez au moins connaître cet événement, je l'espère en tout cas. Et puis, vous avez un troisième organisme fondé en 1969, qui s'appelle la Fédération évangélique de France, dont vous êtes membre, qui a changé de nom, qui s'appelle le réseau FEF. Okay? Le réseau FEF, la Fédération évangélique de France, ne regroupe à l'époque que à peine plus de 20% des évangéliques. Ce qui fait qu'en réalité, vous aviez un grand éparpillement. Et les grands absents de ce tableau, ce sont pour l'essentiel les Assemblées de Dieu, qui sont la plus grande union d'églises évangéliques en France. Hein. C'est, quoi que vous pensiez des pentecôtistes, ils ont réussi la plus belle évangélisation en France au XXe siècle, puisqu'ils ont démarré en 1930 et qu'à la fin des années 2000, il y a plus de 400 églises en France, 700 lieux de culte et 400 églises établies. C'est quand même assez phénoménal. Et pire que ça, il y a dans l'histoire des années 80 et 90 des dissensions extrêmement vives entre la Fédération évangélique de France qui produit l'annuaire évangélique et les assemblées de Dieu, à tel point que les assemblées de Dieu vont être retirées ou vont se retirer, là je ne connais pas les responsabilités, de l'annuaire évangélique, ce qui fait que l'ambiance est plutôt lourde, tendue. Néanmoins, la nouvelle génération qui arrive aux responsabilités à la Fédération évangélique de France, je parle là de gens comme Daniel Lichti, comme Dominique Ferré en particulier, disent on ne peut pas rester dans cette situation. Pour deux raisons. D'abord parce que ça ne glorifie pas le Seigneur, nos disputes. Et ensuite, la France est un pays à évangéliser. Il y a énormément de travail à faire. Nous sommes en train de disperser nos forces. Et d'ailleurs, ça se traduit par le fait que les médias qui nous connaissent si mal nous brocardent souvent. Donc, il faut un travail d'abord dans l'ombre entre bureaux des différentes organisations pour tenter de trouver un moyen de rassembler tout ce monde. Et comme ils avancent suffisamment, ils décident à la fin de l'année 99, début de l'année 2000, de convoquer tous les responsables d'union évangélique en France. Alors, je ne sais pas si vous savez combien il y a de dénominations évangéliques en France. Non, 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 non. Il y en a 45. 45. Donc, ils nous convoquent. À ce moment-là, je suis moi-même responsable d'une union. Et donc, je viens dans la chapelle de Nogent. C'est là qu'on nous réunit. Et on nous explique ce que je viens de vous expliquer. Et il se produit là quelque chose de tout à fait inattendu qui n'a pas été programmé. C'est que Jacques Mouillon, le pasteur Jacques Mouillon, qui est alors président de la Fédération évangélique de France, se lève et dit, je crois, qu'il faut que je demande pardon au nom de la Fédération évangélique de France, aux Assemblées de Dieu, aux pentecôtistes, pour les propos, les attitudes que nous avons eues à leur égard. Alors, je dois vous dire qu'il a été courageux, je crois qu'il a été conduit par le Saint-Esprit et qu'il ne s'est pas fait que des amis dans son propre milieu. Mais honnêtement, je pense que c'était conduit par le Seigneur. Les Assemblées de Dieu. Les responsables des assemblées de Dieu se sont levés et ont dit avec sagesse, nous avons bien entendu ce que vous nous avez dit, votre demande de pardon, mais Il nous faut le temps maintenant de réfléchir à ce que vous nous avez dit, parce que vous savez, il y a quand même un lourd contentieux entre nous. Laissez-nous du temps et nous reviendrons vers vous pour nous donner votre réponse. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est sage, parce qu'il ne s'agit pas d'accorder son pardon dans un élan sentimental qui ne soit pas profond. Et nous nous étions donné comme rythme une rencontre tous les 6 mois, donc janvier, juin, pendant lesquelles une des deux était consacrée au jeûne et à la prière. Donc c'est quand même beau, vous avez des responsables d'union d'église qui ne se fréquentaient peu ou pas, qui se mettent à jeûner et à prier ensemble. On se retrouve 6 mois plus tard, 2001, en juin, et nous étions tous dans l'attente de savoir ce que les pentecôtistes allaient répondre. Et là, le responsable des assemblées de Dieu, le pasteur Michel Forêt, se lève et dit, « Eh bien, écoutez, nous avons porté à la connaissance, vous savez, les assemblées de Dieu sont gérées par les pastorales. Nous avons porté à la connaissance de la pastorale des assemblées de Dieu votre demande de pardon et nous avons discuté et nous avons voté. Et à l'unanimité, je suis heureux de vous dire que nous acceptons votre demande de pardon, mais non seulement ça, nous reconnaissons que dans nos réactions, nous n'avons pas été justes et nous vous demandons à notre tour pardon. » Et alors là, silence dans la salle parce qu'on était en train de se dire « mais on est en train de vivre quelque chose d'historique ». Et la Fédération des Églises du plein évangile en francophonie, je ne sais pas s'il y a des églises dans le Pays de Gès, mais en tout cas, il y a une grande église à Grenoble de cette fédération. Ils se sont levés pour faire la même déclaration, puisque, étant pentecôtistes, ils se sont sentis aussi interpellés par la demande de pardon. Et en fait, c'est sur la base de cette réconciliation, de ce que j'estime être un mouvement de l'esprit, que le Conseil national des évangéliques est né. Alors, il est né d'abord d'une façon informelle, c'est-à-dire que pendant 10 ans environ, ça n'a pas été une association déclarée. Ça l'est devenu seulement en juin 2010. Quel est le but ? Il s'agit, c'est une plateforme au départ, une plateforme informelle pour renforcer les liens, exprimer par ailleurs l'unité donnée par Jésus-Christ. Et le but supérieur que s'est donné le Conseil national des évangéliques de France, c'est de participer à la mission de Dieu en faveur du salut du monde et donc de faciliter et de promouvoir la proclamation et la pratique de l'évangile. Nous nous sommes donné 4 missions. De concertation entre évangéliques, d'information dans cet ensemble et à l'extérieur, y compris auprès des médias, de représentation auprès des autorités et d'animation de projet. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une animation de projet ? C'est par exemple, tous les 3 ans, une grande convention de pasteurs qui permet aux évangéliques de se retrouver. L'objectif, c'est de favoriser... L'objectif extérieur, pas immédiat mais extérieur, c'est de favoriser une meilleure visibilité et lisibilité du protestantisme. Je passe, donc je reviens, mission du CNEF, concertation, information, représentation, animation de projet, et à côté de ça, des services pour les membres. Alors, quels sont ces services ? Certains. Alors, nous avons hérité, en fait, de la FEF d'un côté, Fédération évangélique de France, de l'Alliance évangélique de l'autre, des choses qui existaient déjà. Qu'est-ce qui me fait ? Il doit être minuté. Intéressant. Donc, qu'est-ce que nous proposons comme service ? Un annuaire évangélique, à la fois sur Internet et sur papier, des conseils juridiques, un appui théologique comme en publiant sur la théologie de la prospérité, une aide à l'obtention des visas pour les pasteurs et missionnaires qui viennent de l'étranger, un appui pour les églises auprès de l'administration, un travail de relais pour que des aumôniers évangéliques puissent travailler dans les hôpitaux et dans les prisons. Nous appartenons au réseau européen de l'Alliance évangélique européenne et de l'Alliance évangélique mondiale. Des relations avec la CAVIMAC, vous savez ce que c'est ? Caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes, qui est la caisse à l'origine des curés, mais qui a été ouverte aussi aux pasteurs. Et où les pasteurs aujourd'hui représentent d'ailleurs le corps le plus dynamique, parce que malheureusement, même si nous ne sommes pas majoritaires, notre renouvellement est beaucoup plus intense que celui des prêtres. Vous savez que la crise des vocations est terrible dans l'Église catholique. Et enfin, associé à ça, un réseau qui s'appelle le RESAM, réseau de soutien au ministère, qui propose aux responsables d'église un lieu pour se ressourcer, parce que vous devez savoir, ça a été l'objet chez moi d'une étude, qu'il y a beaucoup d'échecs chez les pasteurs responsables d'église, dépression, abandon de ministère, parce que bah, vous avez vécu des choses comme ça. La responsabilité dans une église n'est pas toujours des plus roses. Et on passe par des moments difficiles. Alors, qui est membre du CNEF ? Alors, les chiffres datent un peu. Il y a aujourd'hui 30 unions d'églises. Et nous avons structuré ça de façon représentative pour que personne ne... pour que personne, en quelque sorte, par son seul poids numérique, et je pense là aux assemblées de Dieu, domine tout. Nous avons donc 5 pôles. Les évangéliques qui appartiennent à la Fédération protestante, donc il y a 10 unions qui sont membres des deux, les assemblées de Dieu de France qui forment un seul pôle à elles seules, le réseau FEF, la mouvance pentecôtiste et charismatique, et enfin le pôle des œuvres. Et c'est ainsi que ça se présente. Nous avons un comité, c'est-à-dire un conseil, si vous voulez, d'administration, qui est composé de 3 représentants. Veux-tu ? De 3 représentants. Et vous voyez que dans les œuvres, c'est 3 représentants plus 1. Alors, qui est ce 1 ? C'est moi. Mais je vais vous expliquer pourquoi. On a décidé, pour montrer notre orientation théologique, que le représentant des écoles de formation viendrait en appui aux 3 représentants des œuvres. Et comme je suis président de la fac, c'est moi qui ai été désigné pour remplir ce rôle. Je passe sur trop de détails. Voici quelques événements. Nous avons tenu une convention du CNEF les 22-23 janvier dernier. Alors nous avions choisi comme sujet liberté, égalité, laïcité, quelle place pour les évangéliques, ça vous dit quelque chose, puisque je vous en ai parlé. Figurez-vous que quand nous l'avons choisi, il y a beaucoup de pasteurs qui nous ont dit, on se demande, ouais, c'est pas très intéressant, qu'est-ce qu'on va raconter, etc. Et on a eu du souci hein, pour les inscriptions. On s'est même demandé au mois de décembre si on ne devait pas annuler. On a fait un pari, on a dit on le maintient. Et, malheur, l'histoire de Charlie a fait que le thème s'est trouvé tout d'un coup d'une actualité brûlante, au point que les journaux nous ont dit « Oh là là, mais comment vous avez fait pour choisir un sujet si rapidement ?» On a dit « Non, non, on ne l'a pas choisi si rapidement, ça fait des mois qu'on l'a choisi. » Et on a eu des interventions diverses, juridiques, philosophiques, etc., sur ce sujet. Et une partie de ce que je vous ai dit, j'ai pu le dire devant les autorités de l'État, le bureau des cultes. Donc, quelques photos de cet événement. Alors, ça, c'est notre juriste, Nancy Lefebvre, qui travaille à 70% pour le CNEF. Elle est maman, par ailleurs. Hein. Les 30% restants, c'est son rôle de maman. Et puis, comme vous le savez, nous avons mis en place une campagne en faveur de la liberté d'expression parce que nous nous sommes aperçus qu'il y avait des menaces dans ce domaine et qu'il nous fallait, dans la tradition évangélique de séparation des églises et de l'État et de défense de la liberté d'expression, être une voix pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur les menaces qui pesaient sur la liberté d'expression, en particulier religieuse. Et donc, nous avons commencé cette campagne en juin 2014. Tous les trimestres, nous envoyons à tous les parlementaires une lettre et puis nous publions des livrets dont je vous ai parlé hier, ainsi qu'un livre. Il s'agit de promouvoir la liberté de conscience et d'expression en France. Et en plus de ce que je vous ai dit, nous avons ouvert un site, alors qui a été attaqué. Hein, mais vous savez qu'il y a eu des attaques de sites chrétiens à plusieurs reprises par des djihadistes, en tout cas par des gens qui se présentent comme djihadistes. Hein. Après, qui est derrière, on n'en sait trop rien. Hein. Et voilà un aperçu de ce site hein, qui reprend les grands thèmes de nos livrets, libre de le dire à l'école, au travail, en public, au campus, à l'église. Et le fameux livre le livre de réflexion sur ce sujet. Alors celui-là est disponible, qui explique comment vivre sa foi librement à l'école, mieux connaître les droits et limites de la liberté de conscience et d'expression en France. Celui-ci sur la liberté d'expression au travail. Et puis, un autre service que nous offrons, c'est un site d'infos juridiques, parce que les églises sont confrontées, en tant qu'établissement recevant du public et qu'association cultuelle, à une réglementation foisonnante, contradictoire, complexe. Et donc, nous nous efforçons de répondre aux questions que se posent les communautés. Enfin, vous connaissez certainement l'annuaire. Je ne vais pas en dire plus. Je pense que vous avez là un petit aperçu de ce que fait le CNEF. Alors, je précise juste que je suis un président bénévole. C'est-à-dire que je fais ça à temps perdu. Ça veut dire que j'en ai plus beaucoup de temps perdu, à vrai dire. Il y a des permanents. Nous avons un directeur général, Clément Diedrich. Nous avons un directeur de la communication, le pasteur Thierry Le Gall. Et puis, nous avons deux assistantes et donc une juriste. Donc, nous sommes une toute petite équipe. Et avec le temps qui passe, nous avons de plus en plus à faire. Je vous ai parlé de cette audition à l'Observatoire de la laïcité. Nous avons demandé... Alors, petite anecdote, voilà le genre de choses qui se passent. Nous avons invité le ministre de l'Intérieur à venir à notre convention. Il a répondu oui. Évidemment, entre-temps, il y a eu les affaires de l'attentat qui ont compliqué les choses. Et on se doutait bien que le ministre ne pourrait pas venir. Par contre, le ministre, une semaine avant la convention, est allé au vœu du président de la Fédération protestante. Alors là, je n'ai pas loupé son cabinet. Je leur ai dit, vous êtes bien gentils. Vous nous dites que le ministre n'a pas le temps, mais apparemment, ça dépend de qui on parle. Il a du temps pour certains. Alors évidemment, ça a été un peu tendu. Et dans la foulée, j'ai vu le ministre. Alors au ministre, je n'ai pas dit les choses tout à fait de la même manière, parce que ce serait déplacé. Mais je lui ai dit, ah, nous regrettons que vous ne soyez pas venu. Du coup, j'espère que vous allez nous recevoir. Et il ne pouvait guère dire autre chose que oui, donc il m'a dit oui. Alors, en même temps, vous savez, les promesses des politiques sont limitées. Pour l'instant, nous avons une lettre qui nous garantit qu'il va nous recevoir, mais nous attendons toujours le coup de fil qui va le permettre. Nous avons vu ses prédécesseurs. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ah, oui. Je ne dis pas qu'il est... Oui, opposé, mais voilà, il faut se battre un petit peu, en quelque sorte. C'est pour vous dire, parce que le CNEF est nouveau, il donne l'impression de marcher sur les plates-bandes de la Fédération protestante, et donc, du coup, c'est un petit peu délicat à gérer, à manier. Question sur le CNEF ?
Tu peux nous dire combien d'évangéliques il y a en France ?
Alors, en France, il y a 600 000 évangéliques, mais alors vous allez être surpris, 450 000 pratiquants. Donc quand on fait des sondages, alors 75% de pratiquants, vous allez dire c'est très fort, c'est très haut. Hein. Le seul problème c'est que dans un milieu professant où nous affirmons l'importance de la vie d'église et de l'engagement dans l'église, commence à apparaître avec la croissance du monde évangélique une proportion de gens, je vous en dirai un mot tout à l'heure, qui se disent évangéliques mais qui n'ont plus de pratique religieuse. Ce que connaissent bien les Américains, ce qu'on appelle les unchurched people, hein, qui étaient des gens sans église, une catégorie qu'on ne connaissait pas, nous. Nous, ce n'était pas sans église, c'était sans Dieu, sans rien du tout. Tandis que vous trouvez aux États-Unis des gens qui, sans aller dans une église, ont une notion assez claire de ce qu'est la Bible, de ce qu'est son message, mais ils ne vont nulle part. Cette catégorie est en train d'apparaître chez nous. Donc 450 000 pratiquants, 600 000 évangéliques, c'est 2 400 communautés sur le territoire français, y compris les DOM-TOM. Pour la seule métropole, il y a 2 184 églises. Donc on continue à grandir de façon régulière, mais limité à raison de environ 35 à 40 églises par an.
Et la représentation de la Fédération protestante, en chiffres, c'est quoi ? En termes de nombre d'églises,
Alors, je pense que l'ensemble de l'Église protestante unie doit représenter 1600 paroisses, non, 1400 paroisses. C'est ça. Alors, Église protestante unie est l'équivalent en Alsace, ça doit représenter 1400 paroisses, plus, je pense, 400 ou 500 églises évangéliques. Donc, en termes de nombre d'églises, on est à peu près dans les chiffres équivalents. Sauf que dans la Fédération protestante, la disparité est beaucoup plus grande, tandis que nous nous sommes réunis autour d'une déclaration de foi, et donc avec un socle doctrinal de base. Oui, Anne-Marie. Le conseil.
Ouais.
Non, non. Alors c'est une vision de l'esprit. Quand je dis qu'il y a 600 églises, non. Quand je dis qu'il y en a à peu près le même nombre de paroisses, il se trouve que une partie appartiennent aux deux. Donc, c'est voilà. En termes de représentation, il est clair que nous sommes déjà bien repérés par les autorités, le bureau d'écoute en particulier. La difficulté que nous avons, mais ça, c'est depuis le passage des socialistes au pouvoir, c'est que les socialistes sont très méfiants des évangéliques. Et donc, nous avons vu reculer de façon très nette notre accès aux plus hautes sphères du pouvoir. Ça, c'est très clair. Alors que sous la précédente majorité, j'avais été invité, à ma grande surprise d'ailleurs, je trouvais que c'était très rapide, j'avais été invité au vœu du président de la République et j'avais été mis au premier rang. J'étais tout surpris. Hein. Voilà. Ceci étant, nous avons choisi de dire la chose suivante, nous ne cherchons pas absolument à être dans tous les cocktails. En plus, vous savez, c'est d'un ennui souvent assez terrible. Ce que nous cherchons, c'est à faire avancer la cause de l'Évangile. Et donc, en réalité, vous savez, pour avancer, il vaut mieux connaître les sous-fifres pour obtenir les autorisations que forcément les plus grands.
Qui travaille à coordonner, harmoniser, faire travailler ensemble les évangéliques aussi. Et ça, je trouve que c'est une dimension fort intéressante aussi et qui devrait susciter davantage d'intérêt de notre part aussi, de ce côté-là. Et ça, c'est quand même très, très bien d'arriver à harmoniser. Mais vous savez, alors, simplement pour nous, encore une fois, nous, en tant qu'église indépendante, c'est-à-dire qui n'appartient pas à une dénomination, nous ne sommes pas, en tant qu'église, membres du CNEF. Nous sommes en fait membres du réseau FEF qui, lui, appartient donc après au CNEF. Ça ne nous empêche pas de nous intéresser à ce qui se passe au CNEF. Et en particulier, donc, pour vous qui êtes membres, et lorsqu'on a discuté, c'est la deuxième année, nous soutenons donc cet effort que fait le CNEF d'implanter une église pour 10 000 habitants. Alors là, est-ce que, en quelques mots,
oui,
tu peux nous dire, oui, un petit peu ce qu'est ce projet, dans quelle direction il avance?
Alors, je vais faire une petite manipulation et je voudrais vous montrer quelque chose qui est ici. Voilà, ça, ça a été fait par Daniel Lichty. Si vous regardez sur cette carte, chaque point représente une église locale. Donc, il devrait y avoir la vôtre. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2184 communautés évangéliques sur le territoire français. Dans ces statistiques, nous ne prenons en compte que les groupes suffisamment structurés pour être capables d'offrir 3 fois par mois le week-end un culte. Parce que si on commence à prendre tous les groupes de prière, etc., on peut faire gonfler les chiffres, mais ça ne veut plus rien dire. Alors, ce qui est intéressant, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on appelle le taux de pénétration. Combien y a-t-il d'églises pour 10 000 habitants? Pourquoi ce chiffre, une pour 10 000? Parce que d'un point de vue de la sociologie religieuse, on estime que c'est le taux de pénétration nécessaire pour que dans la population, il y ait une possibilité relativement naturelle de rejoindre ou de passer, de franchir le seuil d'une église évangélique sans être obligé de franchir trop de distance. Hein ? Aujourd'hui, nous sommes à un taux moyen, avec beaucoup de disparités, de une pour 30 000 habitants. Donc si vous regardez là, ce qui est en bleu foncé, c'est entre 0,11 et 0,2 églises pour 10 000 habitants, et vous approchez le taux de 1 pour 10 000 dans un seul département, c'est le Gard, au lieu du protestantisme, hein, de l'histoire protestante. Et vous avez dans les départements au-dessus, Drôme, Ardèche, je ne sais pas quel est le troisième, et dans le Haut-Rhin, vous avez juste en dessous, donc entre 0,6 et 0,8 églises pour 10 000 habitants. Église évangélique. Église évangélique. Si vous regardez maintenant l'évolution, vous vous rendez compte que il y avait des pans entiers de la France où il n'y avait pas d'église, où il y a eu des progressions fulgurantes. Par exemple, dans les trois, dans les, le département qui est dans, en dessous du Morbihan, c'est Loire-Atlantique. Voilà un endroit où le nombre d'églises, où le taux de pénétration a été multiplié par 6 à 8. La région parisienne, vous vous rendez compte qu'il y a une explosion d'églises. Il faut dire en même temps qu'il y a 20% de la population française dans cette région qui est relativement modeste de taille. Et maintenant, si on regarde le nombre d'églises locales par département, vous voyez que les départements où il y a le plus d'églises locales, indépendamment de la population, c'est l'Alsace, c'est le Nord qui est le bassin d'origine des baptistes en France, hein, c'est Bouches-du-Rhône, Gard et... Hérault, je pense. Voilà. Où vous avez dans ces départements de 50 à 95 églises évangéliques. Donc vous avez aujourd'hui des métropoles où vous avez une possibilité, un choix d'église qui est relativement considérable. Vous allez à Toulouse, vous avez le choix entre une trentaine d'églises. Je ne les recommanderai pas toutes. Hein. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà. Je passe sur les dom-tom qui, en toute façon, qui sont dans une situation un peu différente. Mais alors, pour la première fois, Daniel Lichty a fait des cartes pour voir comment c'était accessible. Les secteurs en rouge représentent les secteurs où on peut trouver une église évangélique en 30 minutes maximum de trajet en voiture. Alors, avec des curiosités, vous savez que un de mes collègues dit que le dimanche matin, sur le périphérique, c'est là qu'il y a le plus de chrétiens. Parce que les gens, ils se croisent pour aller dans les églises qui sont tout sauf des églises locales. Bon, ça a un peu changé. 87% du territoire est couvert. C'est un peu comme avec le réseau SFR, hein, est couvert de ce point de vue-là. Si vous baissez à 15 minutes, vous n'avez plus que 42% de la surface globale. Ça veut dire qu'il y a des endroits entiers, en particulier le centre, où les possibilités de trouver une église à distance raisonnable sont quand même faibles. Je passe sur les chiffres. Quelle est l'idée derrière une pour 10 000 ? C'est que si on veut passer à une église pour 10 000 depuis une église pour 30 000, il faut multiplier le nombre d'églises par 3. Énorme. Ça voudrait dire qu'il faudrait implanter 4000 églises, puisqu'il y en a 2000. Alors, vous avez remarqué qu'on ne dit pas il faudrait X chrétiens. Pour quelle raison ? Parce que la conversion, nous n'en sommes pas maîtres. Ça appartient au Saint-Esprit. Nous pouvons annoncer, mais les résultats ne nous appartiennent pas. Par contre, ce qui nous appartient, c'est de décider de façon volontariste que nous implantons une nouvelle église. Mais vous savez, décider d'implanter une nouvelle église signifie plusieurs choses. La première, c'est que des gens acceptent de ne plus avoir pour seul but dans leur vie de construire leur maison et d'avoir un boulot qui paye bien mais qui disent « je vais désormais orienter ma vie pour aller m'installer dans un endroit où il n'y a pas d'église ». Et orienter ma vie, donc il faut essayer de trouver du travail quand même, orienter ma vie de telle sorte qu'on puisse à quelques chrétiens implanter une nouvelle église. Je vous donne un exemple. Vous avez, alors c'est souvent quand on est jeune qu'on peut faire ça. Vous avez plusieurs jeunes qui ont décidé d'être envoyés par l'église baptiste de Strasbourg à Biarritz. À Biarritz. C'est pas la porte à côté, hein? Ils y perdent pas, non, mais quand vous connaissez les Alsaciens, c'est déjà un choix volontaire. Vous avez des familles de la Bonne Nouvelle de Strasbourg qui sont allées s'implanter à Nantes avec Philippe Trinclet. Et ils ont implanté une église. Et nous sommes persuadés qu'ici, c'est une question d'abord de ressources humaines. C'est-à-dire, c'est pas une question de fric. C'est pas une question de bâtiment. C'est d'abord d'avoir des jeunes qui se lèvent parce qu'ils sont appelés par le Seigneur, mais que derrière eux, il y ait des communautés qui les soutiennent spirituellement et financièrement, sachant que ce que nous privilégions, enfin, ce que nous encourageons, c'est de dire, pour démarrer une église, il ne faut pas avoir un soutien complet, il faut d'abord commencer à bosser. C'est-à-dire, il faut encourager des ministères bivocationnels. Et ce qui me fait espérer qu'il y a quelque chose de bien, de possible, c'est que ceux qui ont imaginé ça, c'est Daniel Lichty et toute une commission, ont mis en place des formations. Il y a d'abord un parcours découverte implantation, ça c'est le premier niveau. Vous avez ensuite un centre de formation régionale pour implanteurs. Donc un implanteur qui a des capacités d'enseignement prend autour de lui des jeunes pendant 2 ans pour les enseigner, les faire travailler et les aider à monter un projet d'implantation dans le secteur géographique. Comme ça, ils peuvent rester en lien ensuite. Et puis, nous avons mis en place aussi une séance de, si vous voulez, de on appelle ça CEOFI, je ne me souviens plus ce que ça veut dire. C'est une séance d'orientation où ceux qui pensent qu'ils ont une capacité d'implanteur viennent vérifier avec Jonathan Ward, pas si vous connaissez, du RESAM, viennent vérifier qu'ils ont le profil pour. Parce que moi, dans mon ministère, j'en ai rencontré des gens qui se disent implanteurs, mais qui sont tout sauf ça. J'ai des missions qui me disent « oui, on veut implanter des églises ». Je leur disais « oui, c'est bien, sauf que vous ne nous envoyez pas des implanteurs ». Et donc, déjà que vous n'êtes pas du pays, si en plus vous ne savez pas implanter des églises, je suis sûr que ça ne peut pas marcher. Hein, et puis, il y a une autre chose que vous devez avoir en tête, c'est que si nous voulons que ça se propage, il faut que l'Église démarre avec l'idée qu'elle doit se reproduire. Et ça, c'est un vrai problème. Ce que j'ai observé, ce que je crois avoir observé dans mon ministère de responsable national, c'est que les Églises vivaient comme elles étaient nées. C'est-à-dire que si vous ne leur imprimez pas dès le départ une certaine orientation, elles auront beaucoup de mal à la prendre ensuite. Beaucoup, beaucoup de mal. Et je pourrais vous raconter des échecs retentissants d'implantation d'églises avec les déçus des autres églises. Nous avons eu des implanteurs qui ont fait ça. Vous ne pouvez rien faire avec ça, rien du tout. Parce que vous n'avez qu'une église de mécontents. Et vous savez, les mécontents, ça ne donne pas envie. Ce n'est pas ça qui fait progresser le royaume de Dieu. Alors souvent, les gens vous répondent « Oh là là, mais on ne va pas commencer à implanter une église parce qu'il faut d'abord qu'on consolide, il faut d'abord qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. » Je peux vous répondre tout de suite, ces églises-là, 15 ans après, elles sont toujours au même point. Oui, c'est une aventure. Oui, c'est un pari. C'est un pari de la foi. Et très souvent, enfin, je ne suis pas persuadé que les méga-churches soient l'avenir de l'église en France. Il y a quelques méga-churches. Nous voyons apparaître des églises grandes, hein, à droite et à gauche. Je suis très étonné, en région parisienne, il y a beaucoup d'églises qui font 3-4 cultes le dimanche, hein, et qui drainent des centaines de personnes. Mais si nous voulons, implanter des églises dans la France rurale et dans les villes moyennes, il ne faut pas compter sur les méga-churches. Hein. Il faut faire du travail de terrain, du travail de proximité. Et il faut que ces églises, dès le départ et dans l'idée, on n'est pas là juste pour nous, on est là aussi pour faire grandir le royaume ailleurs. Vous savez, quand on bâtit une église, souvent, puisque vous êtes dans un projet, souvent dans le travail que j'ai fait, j'ai trouvé au moins une erreur majeure, c'est un, de bâtir et d'en faire le projet d'église. Mes amis, une construction n'est pas un projet d'église. Une construction n'est qu'un moyen de déployer un projet d'église. Si vous n'avez pas de projet d'église, ne construisez pas, parce que vous allez vous enterrer. Donc ça c'est une première chose. La deuxième, c'est si vous devez choisir entre le soutien des ministères ou l'érection des pierres, choisissez le soutien des ministères. Inutile d'avoir une église grande et d'avoir personne pour la faire vivre. Et là, j'ai vu des églises faire des choix catastrophiques. Parce qu'elles ont tout mis dans la pierre, puis après elles ont dit « Ah oui, on ne peut payer personne pour s'occuper de l'église. » Oui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On est à la peine pour entretenir le bâtiment qui est trop grand, qui est ceci. La troisième chose que j'ai vue, c'est quand on construit trop grand. Et on se met des dettes sur le dos, mais ça, c'est la même chose que dans vos foyers. Si vous achetez une maison qui est au-dessus de vos moyens, je vous souhaite bien du plaisir, hein. Vous allez galérer et peut-être que vous le paierez au prix fort. Et quand je dis au prix fort, je ne parle pas du prix financier. Certains ont payé leur maison au prix de leur famille. Parce qu'à force de devoir tout faire, de devoir galérer tout le temps, à la fin, il n'y a plus de foyer. Puis la dernière chose, c'est que, vous savez, les gens dans une église, ils ont l'impression que quand ils construisent leur église, construisent le bâtiment, ils construisent leur maison. Rien à voir. Quand vous allez construire votre maison individuelle, dites-vous ceci, elle sera un jour trop grande. Parce que vous la construisez au moment où vous avez des enfants à la maison, ils vont partir. Hein ? Dans l'église, c'est l'inverse. Ou je souhaite que ce soit l'inverse. C'est-à-dire, vous allez construire, mais ça va devenir trop petit. C'est bien l'objectif. Alors, il faut bien dimensionner, parce que c'est pas la peine de faire... Je connais une église dans le Nord, ils ont reçu du Seigneur qu'ils allaient avoir 1000 personnes. Et avant d'avoir la première de ces 1000 personnes, ils ont commencé à construire. Folie pure. Folie pure, parce qu'il faut, il faut aller avec le rythme de Dieu, si vous voulez. C'est ce que j'ai dit, pour que les églises se multiplient davantage par elles-mêmes, il est urgent qu'elles recrutent en leur sein des ministères d'implanteurs bénévoles, bivocationnels et à plein temps, qu'elles les forment et qu'elles les envoient. Et ma grande joie, mes amis, je ne sais pas si vous en voyez les fruits ici, c'est de voir des jeunes qui se lèvent. Et j'ai observé une chose, les jeunes ont besoin d'un défi. Si vous leur annoncez un évangile pépère, ne croyez pas qu'ils vont vous suivre. Ils ont besoin. Pourquoi l'IBG a tant de succès ? Vous êtes dans la région, hein ? Parce qu'il y a à sa tête des gens qui sont ambitieux pour le Seigneur, qui lancent de vrais défis aux jeunes. Et vous voyez, si vous allez à l'IBG, des jeunes qui ont des carrières, qui ont fait des carrières brillantes, qui laissent tout, carrière d'ingénieur, dans le droit, etc., qui laissent tout pour se consacrer entièrement au Seigneur. Et puis, c'est pas rien. Ils vont un an à l'école biblique et puis ils vont faire deux stages, donc chaque fois avec leur famille, déménager. Et nous, des fois, on est là. 15 jours de formation. Non, mais arrête, j'ai pas le temps. Vous voyez le problème. Et moi, je vois des jeunes se lever. Je sais pas si Pulse sévit dans le secteur. Pas encore. À Paris, on ne sait plus où les mettre. Pulse, ce sont des soirées pour les jeunes. Pulse, ça veut dire prière, unité, service, louange, édification. Il y a 70 jeunes, il y a des jeunes de 70 églises qui viennent dans ces soirées. Il y a 800 jeunes au Palais de la Femme. On ne sait plus où les mettre. Et ceux qui viennent là, les orateurs, j'en ai fait partie, lancent des défis à ces jeunes. Et ils veulent servir le Seigneur. Donc il ne faut pas vous... il y a beaucoup d'espoir pour moi. Voilà, j'ai essayé de faire une réponse courte, mais elle n'était pas très courte.
En tout cas, moi, je trouve formidable de... Ça met déjà en contexte le premier effort que nous, on fait, le premier geste que l'on fait, qui est un soutien financier pour l'implantation d'église. Mais je crois que ce que tu nous as donné là aussi va être matière à réflexion, non seulement au sein du Conseil, mais j'espère aussi au sein de notre commission évangélisation. Mais il y a beaucoup de choses dont tu as parlé là qui ont une résonance et qui peut-être provoqueront un certain nombre de changements, de nouvelles orientations chez nous dans l'avenir. Mais en tous les cas, on est content de pouvoir être ouvert à ces initiatives, de voir ce qui se fait ailleurs et d'être interpellé aussi en cette matière pour pouvoir faire quelque chose aussi dans notre région ou participer à cela aussi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Oui. Je voulais juste dire que je suis très très touché par cela parce que c'est ça qu'on a vécu. Quand tu vois Nation, Créteil, Maison Alphand, c'est toute une suite. Il y a jusqu'à 18 familles de gens qui ont déménagé. Et maintenant, il y a trois églises dans la place.
Voilà.
C'est l'épée, cela. Ouais. Il est fidèle. C'est comme ça que on voit dans le Nouveau Testament. Et voilà. Amen.
Alors, en matière d'évangélisation, moi, je dirais deux choses. Le Seigneur bénit les efforts qui sont entrepris. Vous pensez ce que vous voulez de la méthode pentecôtiste. Moi, je la pense souvent vieux jeu, avec les réunions d'évangélisation du dimanche après-midi. J'y assistais quelquefois, j'ai été très proche des pentecôtistes dans mon ministère puisqu'on avait des choses en commun. Mais ils sont fidèles au poste. Ils sont là régulièrement. Et ils touchent des gens. Ça, c'est la première chose. Il faut être fidèle. Et la deuxième chose, il faut bâtir un projet. Je veux dire, on a trop tendance à partir dans des sentiments. « Waouh, c'est formidable, j'ai reçu du Seigneur. » Oui, mais assieds-toi. Assieds-toi maintenant et calcule. Et entoure-toi. Va pas au combat tout seul, là, comme un fou. En particulier dans les CFRI, justement, ce qu'on aide, c'est ces jeunes à bâtir leur projet. Pour pas qu'ils partent au casse-pipe. Hein, pour qu'ils aient réfléchi des étapes. Alors, après, il faut s'adapter. Le Seigneur fait pas toujours les choses comme on le voudrait. Mais il vaut mieux avoir un objectif pour aller quelque part, que d'aller un peu, de battre l'air. Voilà, deux choses que je tenais à dire. Ouais. Alors, j'aimerais maintenant vous faire réfléchir d'une autre manière à l'évangélisation, en vous parlant d'un texte biblique que j'aime beaucoup, et qui pour moi est déterminant dans l'évangélisation. C'est ce texte-là, écoutez bien, « À la vue des foules, Jésus en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » On est un dimanche matin. Le culte vient de commencer. L'auditoire ressemble à s'y méprendre à celui des semaines précédentes. Mais voilà qu'une petite dizaine de jeunes du quartier entrent sans se faire remarquer. C'est la première fois que ces jeunes mettent les pieds dans une église. Et même s'ils font l'effort d'être discrets, tous les regards se tournent vers eux. Les uns s'inquiètent, les autres s'interrogent. Les membres de la commission d'évangélisation se demandent si ce n'est pas la réponse à leur prière. Voilà des mois qu'ils œuvrent pour que l'évangile atteigne la cité toute proche. Comme à l'accoutumée, l'atmosphère est chaleureuse, la louange est dynamique, et tout cela contribue à mettre nos gaillards à l'aise. Ils se font de plus en plus participatifs, c'est-à-dire bruyants. Et quand vient le moment de la prédication, il ponctue très naturellement les propos du pasteur de leurs sifflets ou de leurs applaudissements. Pour le coup, c'est l'assemblée qui perd ses aises et se demande si la place de ces jeunes agités est bien au milieu d'eux. Ils n'ont pourtant montré qu'une seule chose, c'est qu'ils se sentaient à l'aise comme chez eux. N'est-ce pas ainsi qu'ils font d'habitude avec leurs profs ? Je vous laisse imaginer les suites controversées de cet événement au sein de la communauté. Il est des exaucements, mes amis, qui nous effraient et font parfois de nous des évangéliques inconséquents. Convaincus que l'évangile s'adresse à tous, nous prions avec zèle pour le salut des hommes, nous témoignons plus timidement de l'amour du Christ. Mais quand les choses se mettent à bouger, c'est nous qui ne sommes pas prêts à changer. Et il n'y a pas que les membres de nos églises qui sont frileux. Parfois les responsables aussi. Je voudrais affirmer à partir du texte que je vous ai lu, rappelé, qu'il n'y a pas d'évangélisation digne de ce nom sans compassion, mes amis. Pas d'évangélisation digne de ce nom sans compassion. Et pour, je ne dirai qu'une chose, parce que sinon je serai trop long, la compassion commence par un regard clairvoyant sur nos semblables et sur nous-mêmes. Voyez-vous, avant d'envoyer ses disciples en mission, Jésus pose le regard sur les foules qui se pressent à sa suite. Et il y a dans le regard de Jésus deux choses étonnantes. La première, c'est une émotion intense. Matthieu dit littéralement que Jésus est ému aux entrailles. On dirait en français, il est pris aux tripes par ce qu'il voit. Ce qui signifie, mes amis, que Jésus n'est pas dupe du succès qu'il rencontre. Si les foules se massent sur son passage, ce n'est pas pour acclamer son ministère, mais pour réclamer son secours. Ce n'est pas la joie du salut qui les transporte, mais le mal et la maladie qui les étreint. On s'attendrait presque à ce que Jésus, au lieu de s'arrêter et de prendre le temps d'un regard compatissant, crie sans délai « Je suis le Messie tant attendu !» Ne désespérez plus, le royaume vient, avec lui la délivrance annoncée par les prophètes. À vrai dire, Jésus n'a pas attendu ce regard ému pour agir. Le texte un peu avant témoigne d'une activité débordante. Il parcourt toute la région, il prêche dans les synagogues, il guérit toutes les maladies. En d'autres termes, Jésus laboure le terrain sans relâche. Mais il sait que son ministère terrestre, aussi puissant soit-il, n'y suffira pas. Sans la croix, vers laquelle il marche résolument, son œuvre restera incomplète. C'est pourquoi il n'est pas encore temps de crier sur les toits qu'il est venu. Certes, le peuple attend le Messie, mais vous savez, il le voulait militairement puissant, nationalement glorieux, visiblement régnant. Et entre nous, les foules qui se massent dans nos églises attendent parfois aussi ça. La théologie de la prospérité a du succès parce qu'elle annonce la prospérité. Je referme la parenthèse. Or, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Il n'est pas venu combattre les autorités romaines. Il est venu ouvrir l'accès au Père, arracher les hommes des griffes du diable et défaire les puissances et les autorités spirituelles. En envoyant Jésus, voyez-vous, Dieu n'a pas choisi la voie des armes et du pouvoir, mais de l'amour et de la foi. Et dans l'attente du jour terrible de la croix, notre Seigneur souffre déjà dans sa chair pour son peuple lassé et abattu. Une émotion intense. Deuxième chose surprenante dans le regard de Jésus, c'est le diagnostic qu'il pose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il dit, il s'agit de gens qui sont lassés, abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Pourquoi c'est surprenant? Du temps de Jésus, ce n'est pas les chefs religieux qui manquaient, mes amis. Entre les pharisiens, les sadducéens et les esséniens, Les autres spécialistes de la loi se bousculent au portillon et tout le monde prétend conduire le peuple sur la voie de la volonté divine. Est-ce alors l'excès qui déroute les brebis, car chacun sait que vous qui travaillez, trop de chefs nuit. Il vaut mieux avoir un bon chef que 36 qui se battent, évidemment. Certainement, mais pas seulement, je fais partie de ceux qui pensent que Jésus fait ici une critique à peine voilée de leur ministère. Il voit ce que l'amour seul peut discerner, abreuvé de commandements, enfermé dans des carcans religieux rigides, éreinté par des chefs durs et vaniteux, les brebis ne sont ni soutenues ni conduites. Si vous ajoutez à cela qu'elles sont poursuivies par l'ennemi de nos âmes et blessées de devoir vivre sous une férule étrangère, alors vous comprenez que Jésus voit clair quand il dit qu'elles sont lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Beaucoup de chefs, mais pas de berger. Voyez-vous, loin de l'aveugler, la compassion de Jésus pour les fous aiguise sa lucidité. Et il fait du juste diagnostic de la situation un préalable à l'envoi de ses disciples en mission. Ce qui me conduit à affirmer qu'aucune évangélisation ne devrait s'envisager sans compassion. C'est-à-dire sans faire preuve de clairvoyance. Et j'aimerais maintenant vous dire ce que ça pourrait signifier pour nous. Ça devrait signifier, mes amis, qu'il faut apprendre à ouvrir les yeux pour aimer. Très concrètement, avant de joindre les mains pour prier, je crois qu'il faut ouvrir les yeux pour aimer. Or, à baisser nos têtes et à fermer nos yeux pour intercéder, nous oublions parfois de porter un regard lucide sur notre société, notre génération. Et à vouloir évangéliser nos contemporains, nous omettons souvent de comprendre de quoi leur quotidien est fait. Non seulement pour apprendre à parler leur langage, mais aussi et surtout pour apprendre à les voir avec le regard du Seigneur. Ne nous arrive-t-il pas, dans notre zèle pour le Seigneur, de juger trop sévèrement notre génération? Oui, certes, elle fait des choix de vie coupables. Oui, elle tourne résolument le dos à Dieu. Elle se complaît dans la vanité. Mais est-ce qu'il n'y a que cela à dire? Notre compassion est-elle si mesurée qu'elle s'arrête à la porte de nos églises? Avons-nous donc un Seigneur si fatigué qu'il ne puisse regarder notre peuple comme il a regardé autrefois le sien? Permettez-moi d'en douter et de vous proposer pendant un instant de regarder au-delà de ce qui saute aux yeux. La société dans laquelle nous vivons me fait penser à une salle de spectacle, à une vaste et superbe salle de spectacle. Les moyens déployés pour éclairer et sonoriser la scène sont impressionnants. Les décors sont souvent géniaux et les acteurs, ma foi, sont plutôt convaincants. Mais tout cela n'est qu'un jeu, un vaste jeu dans lequel il existe une règle implicite. Pour être sous le feu des projecteurs, il faut être jeune, beau et libre. J'entends par là ne pas avoir trop de principes. Pour tous les autres, il reste au mieux les fauteuils de la salle pour assister impuissant à l'intrigue, forte, banale ou sordide, selon les cas. Au pire, il y a les coulisses encore pour se voiler la face devant la réalité factice ou pour être caché en raison du triste spectacle que notre indigence ou nos choix représentent. Une chose est sûre, mes amis, notre génération est prisonnière de cette vaine comédie qui, tout en la distrayant, l'aide à masquer ou à oublier ses illusions perdues. Ne voyons-nous donc pas derrière nos multiples écrans et nos nombreux magazines en papier glacé la terrible solitude affective de nos concitoyens? Jeunes, beaux et libres d'agir à leur guise, ils découvrent, passé le temps insouciant de la jeunesse, que tout cela ne suffit pas à bâtir une vie qui a du sens. Et surtout qu'ils ont sacrifié sur l'autel de l'éphémère les années les plus propices à l'établissement d'une vie affective durable. Que leur reste-t-il à 40 ans? la fuite en avant d'une existence qui se disperse dans des rencontres fortuites et sans lendemain, ou la fréquentation anxieuse des sites de rencontres. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez pas le vaste mensonge que sont les sites de rencontres ? Mythique, e-darling, pour ne citer que les plus honorables, hein, parce que je peux vous parler des sites qui encouragent l'adultère, ce qui est encore autre chose. Pourquoi c'est un mensonge ? Parce que les gens qu'on vous présente pour la pub de ces sites, ils n'ont pas besoin de ces sites pour faire des rencontres. Ils sont beaux, jeunes, et ce n'est pas à ce moment-là qu'ils en ont besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne sont plus tout à fait jeunes, ces quarantenaires. Pas toujours beaux. Et surtout, la liberté tant chérie n'alimente plus leur joie de vivre. Ils seraient alors prêts à payer cher pour être moins libres, mais plus aimés. L'autre jour, l'une de mes étudiantes, une femme de 50 ans, hein, attendait le RER. Elle avait à côté d'elle un cadre, d'après son allure, hein, en costume, bien mis, avec son attaché-caisse. Et figurez-vous qu'au moment où le train s'est approché, il s'est jeté sur la voie. Et sous ses yeux, elle l'a vu écrasé. Elle l'a vu. Mais moi, tous les matins, presque, dans le RER, on me dit « Ah, il y a un problème sur la ligne, il y a un incident voyageur. » Vous savez ce que c'est un incident voyageur ? C'est quelqu'un qui s'est suicidé. Tous les matins. Je ne sais pas si vous imaginez la désespérance qui parcourt notre société. Ces quarantenaires dont je vous parle, ce qu'ils mesurent aussi, s'ils veulent bien y réfléchir quelques instants, c'est que notre société permissive n'a pas simplement mis la joie de vivre au rang des paillettes, du faux semblant du monde, des people ou de la télé-réalité. Elle a aussi entraîné un cortège de mots que nous préférons cacher. Qui osera affirmer que la libération sexuelle a fait plus de dégâts affectifs qu'elle n'a épanoui de vie ? Je pense ici à l'accroissement considérable des foyers monoparentaux d'une part, et au nombre indécent d'enfants maltraités d'autre part. À l'Institut biblique de Nogent, nous essayons d'accompagner nos étudiants à la fois psychologiquement et pastoralement. Moi, je fais de l'accompagnement pastoral. Vous seriez effrayés de savoir le nombre de jeunes qui ont été abusés sexuellement par l'un de leurs parents ou de leurs proches dans leur enfance. Ne seraient-ils pas devenus les uns et les autres, ceux dont je parle, la veuve et l'orphelin de nos sociétés occidentales dont il faudrait prendre la défense ? Qui osera dire que la violence qui explose dans nos banlieues est le fruit de nos égoïsmes coupables, qui ont rejeté dans des zones de non-droit des populations défavorisées ? Qui ne voit combien le culte du veau d'or ne manque ni d'adeptes, ni de temples, ni de victimes ? Je pense aussi bien aux spéculateurs fous, aux temples de la consommation que sont nos galeries marchandes, qu'aux cadras et aux quincas, qui en pleine force de l'âge sacrifient leur santé et leur famille sur l'autel de la performance professionnelle. Vous savez que les études montrent que les cadres, à cet âge-là, se dopent massivement pour arriver à tenir la cadence. Et qui pourra dire les lendemains que nos sociétés occidentales se préparent en cédant à la pression d'un lobby peu nombreux mais puissant, qui a fait de l'homosexualité et plus largement de la perversion des conduites sexuelles des normes acceptables? J'arrête ma litanie. Oui, mes chers amis, nous vivons au milieu d'une génération pécheresse. Mais si j'en crois l'Écriture, nous ne sommes pas les premiers. Et surtout, notre génération n'est pas que cela. Elle est aussi une génération lassée et abattue, qui s'est donné beaucoup de chefs, mais dont aucun ne prend vraiment soin d'elle. Pas besoin de vous faire un dessin avec les chefs politiques. Le risque qu'elle court, cette génération. C'est de céder aux sirènes, non du bon berger, mais de chefs plus populistes et plus autoritaires. L'amour que Dieu verse en nos cœurs par l'Esprit ne devrait pas nous permettre de l'oublier. Vous savez, il y a une chose qu'on dit qui est bête. On dit, ah, il va dans une secte comme ça, mais pourtant c'est quelqu'un d'intelligent. Il est bien formé. Quand avez-vous vu que l'instruction rend les gens plus lucides? C'est Jean-François Revel, le philosophe, qui disait « Les intellectuels ne sont pas plus lucides que les autres, ils sont simplement plus intelligents pour défendre leurs idées. » La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il ne faut pas nous tromper de combat. Parce que la situation est tragique et que nous n'avons pas la sainte lucidité du Seigneur, le risque est grand qu'emportés par nos indignations, nous enfourchions le mauvais cheval et nous nous trompions de combat. J'observe que dans sa lutte à mort contre l'adversaire, Jésus a utilisé les armes de l'amour. Venu parmi les hommes par amour, il a souffert au milieu des siens par amour et il a triomphé en mettant l'amour à son comble en donnant sa vie à la croix. Se pourrait-il qu'en fidèles disciples du Christ, nous soyons appelés à agir autrement ? Et donc nous soyons dispensés de manifester son amour dans nos luttes de chaque jour? Je ne le crois pas. Je voudrais évoquer un sujet qui a fait un temps la une. Vous avez entendu parler de la christianophobie. Il y a une époque où sortaient des pièces et autres films, je dois dire, peu encourageants et peu délicats sur le christianisme et sur le Seigneur. Et nous avons été pressés par les évangéliques, nous CNEF, de faire comme certains groupes catholiques, c'est de crier à la christianophobie. Et les journalistes se sont étonnés que nous ne l'ayons pas fait. Mais voici les réponses que j'ai apportées à ce moment-là, ça date de quelques temps, quelques années, à ceux qui m'ont posé des questions. Pourquoi vous ne dites rien ? Autant le CNEF est prêt à risquer une parole sur des sujets éminemment sensibles, comme le mélange périlleux entre foi et politique. Là, c'était les affaires de la Côte d'Ivoire. La théorie du genre, la prostitution, parce que cela touche au fondement du vivre ensemble, autant il lui paraît inutilement moralisateur de vouloir se prononcer sur toutes les caricatures que véhicule notre société sur le christianisme. Et puis franchement, il n'est pas dans notre vocation de nous prononcer sur les questions artistiques qui font presque toujours débat et parfois scandale. Et si nous le faisions, pourquoi s'attarder plus sur les pièces en question que sur tel film jugé blasphématoire ou sur les écrits de tel philosophe antichrétien ? On peut même se demander si ceux qui ont crié à la christianophobie n'ont pas en fait fait la publicité des pièces et films en question. Il y a des moments où le silence est d'or, mes amis. Il me paraît préférable de garder notre capacité d'indignation pour des causes plus importantes. Je pense par exemple à la pauvreté croissante d'une partie de la population dans notre pays riche, ou une autre chose sur laquelle nous ne sommes pas très en pointe, le scandaleux trafic d'êtres humains qui sévit au cœur même de nos sociétés occidentales. Vous savez qu'il y a une prostitution, il y a un esclavage moderne. Vous savez peut-être aussi que Marcel Georgel, ça vous dit quelque chose, Marcel Georgel, un ancien d'OM, a décidé de consacrer sa vie à défendre ces prostituées qui viennent de l'Est très souvent et qui sont la proie de mafia. Et donc Marcel Georgel va à leur rencontre et les aide à sortir de ce piège. Alors figurez-vous, il m'a raconté, je l'ai croisé, il m'a raconté que finalement il a été repéré par la police. Vous savez pourquoi ? Parce que quand il y a eu des arrestations, ou parfois des morts, hein, et qu'ils ont donc fouillé les portables des prostituées, ils trouvaient toujours le numéro du portable de Marcel Georgel. Ils ont fini par se dire, mais c'est qui ça ? C'est un Mac ou quoi ? Et son sérieux a été tellement pris en compte que désormais, dans les réunions sur ces questions, le pasteur, il l'appelle comme ça, le pasteur est invité comme l'un des spécialistes. Vous voyez, il ne faut pas se tromper de combat. Nous n'avons pas vocation à être des gens qui hurlent tout de suite. Gardons notre énergie pour annoncer l'Évangile. Troisième chose, se laisser remettre en question. Et là, il reste une application plus délicate à tirer du regard clairvoyant du Seigneur posé sur les foules. Se pourrait-il que son diagnostic sur les foules lassées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger, concerne aussi le peuple que nous formons à sa suite aujourd'hui? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais préciser, dans le texte, aucune indication ne va dans ce sens. C'est donc pour des raisons pastorales que je risque le parallèle. Quand je parle du peuple que nous formons, je voudrais aussi préciser que cela ne revient pas à dire que nous sommes seuls à former le peuple de Dieu en France. Ce serait à la fois faux et présomptueux, mais c'est en tout cas la famille à laquelle j'appartiens, et donc c'est la seule sur laquelle je risque une parole. Ceux qui me connaissent ou qui m'ont lu savent l'intérêt que je porte à la question des abandons du ministère. La réalité est si présente, si tragiquement présente dans nos églises qu'elle ne peut pas nous laisser indifférentes. Mes amis, si les bergers auxiliaires, pour moi les pasteurs ne sont pas des bergers, sont des bergers auxiliaires en quelque sorte, du grand berger. Si les bergers auxiliaires sont désorientés, pensez-vous que les brebis peuvent marcher droit? Or, à l'écoute des derniers chiffres sur le protestantisme, j'ai cru trouver l'indice assez net d'une anomalie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Estimé à 600 000 personnes, les évangéliques ne comptent que 460 000 pratiquants. Qui sont donc les 140 000 peu ou pas pratiquants d'un milieu qui pourtant dit être professant? Même si je suis capable de vous donner des explications rassurantes, je ne veux pas que nous nous voilions la face. Il y a parmi eux ceux de nos familles qui, sans avoir rejeté nos valeurs, n'ont pourtant pas donné leur vie à Christ. Moi, j'ai mon fils qui est comme ça. Il n'est pas contre, mais il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Et je suis sûr que si on lui demandait, un sondeur lui demandait, vous êtes quoi? Il dirait probablement qu'il est évangélique. Mais il n'empêche qu'il n'est pas né de nouveau. Puis il y a aussi tous les déçus de nos églises. Tous ceux qui ont été découragés par nos divisions, tous ceux que nous avons écrasés de fardeaux inutiles, tous ceux que nous avons blessés par des paroles injustes, tous ceux à qui nous avons négligé de prodiguer des soins pastoraux par manque de disponibilité. Mes amis, si nous voulons faire preuve de clairvoyance dans l'évangélisation, c'est-à-dire de compassion, il nous faut à la fois apprendre à connaître ceux que nous approchons, mais il faut aussi oser nous remettre en question. Si vous demandez au Seigneur de toucher le pays de Gex, mais que vous avez envie que tout reste comme avant dans votre église, arrêtez de prier. Soyez conséquents. Si vous demandez au Seigneur que le Seigneur touche le pays de Gex, votre église risque de ne pas ressembler beaucoup à celle d'aujourd'hui, demain. Ma dernier mot, avant de vous laisser l'occasion de me poser des questions, pour moi, proclamer l'Évangile est trop sérieux pour être fait en dilettante. Et il y a une chose que je pense de plus en plus nous efforçons de dire. L'évangélisation, ce n'est pas un événement. Très souvent, nos églises ont pris l'habitude de faire un concert. Ah, on a fait l'évangélisation cette année, on a fait un concert. Eh bien, c'est pas méprisable en soi. Mais c'est tout. Pour moi, l'évangélisation est beaucoup plus une attitude. Une attitude de vie. D'ailleurs, je vais me livrer à un petit exercice. J'aimerais savoir comment vous êtes venu au Seigneur. Qui est venu à l'occasion d'un concert, d'une prédication, à la suite d'un appel. Dites-moi, qui ? Pierre. Un. Qui est venu par le témoignage de sa famille ? Hein ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Qui est venu à l'évangile par l'intermédiaire d'amis, de proches ? Alors, plus la famille, mais de relations amicales. Deux. Trois. Qui est venu de façon spontanée ? Vous avez tous repéré, je ne vous connaissais pas, donc je prenais un risque, mais pas un très grand risque, vous avez tous repéré que c'est les relations familiales ou les relations amicales qui font la différence. Et quand quelqu'un se convertit à la fin d'un événement, vous pouvez être sûr que dans 80% des cas, en réalité, ça a été précédé par un travail de relation. Alors, ce n'est pas la seule façon dont Dieu agit. Vous savez que les musulmans viennent massivement dans des circonstances très particulières, au point qu'on a écrit un livre là-dessus. Ils viennent souvent au Seigneur par des visions, des rêves, hein, donc des révélations particulièrement fortes. Mais je crois que c'est voulu par le Seigneur à cause de la difficulté pour les musulmans de changer, de quitter le milieu dans lequel ils sont. Mais habituellement parmi nous, ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous organisez une fois par an, vous vous crevez à faire un concert et que c'est tout ce que vous faites en matière d'évangélisation, vous vous trompez de cible. Comment ? Deux concerts. À travers les camps. Ouais, ouais. Mais vous savez qu'il y a moins de camps aujourd'hui. Vous savez qu'un des problèmes qu'on a avec les camps, c'est que les maisons, beaucoup de nos maisons étaient fermées parce que les maîtres aux normes ont représenté des coûts prohibitifs et qu'on n'a pas réussi à les maintenir. Hein ? Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Qui est-ce qui s'est converti dans un camp ? Ah ben, waouh ! Voilà. Hein ? Ah non, 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 tu t'es pas tourné. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des concerts, etc. Mais ça veut dire que si vous faites que ça, et si ce n'est pas entouré d'une vraie préparation, de vraies relations et d'un vrai accompagnement, ne faites pas ça. J'ai fait une expérience pour moi qui était à la fois formidable et qui m'a appris quelque chose. Quand j'étais pasteur donc à Albi, dans le Tarn, dans la région de Toulouse, nous avons décidé de cibler les musulmans dans notre évangélisation. Nous avons fait venir Antoine Gilardi, je pense que quelques-uns le connaissent. Antoine Gilardi, qui a un ministère auprès des musulmans. Il était très malade ces derniers temps, je ne sais pas quelle est sa situation actuellement. Et nous avons donc fait une publicité pour la projection du film Jésus dans l'Assemblée de Dieu, qui était en face de la gare. Film de Jésus en arabe algérien. Et nous avons fait des publicités bilingues. Et alors nous avons fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est que nous avons regardé les noms sur les boîtes aux lettres et nous avons mis, vous voyez ce que je veux dire. Et sur les marchés aussi. Et nous avons eu, tenez-vous bien, ça nous était jamais arrivé, nous avons eu 50 musulmans qui sont rentrés dans l'église pour voir le film Jésus. 50. Des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église. Et Antoine Gilardi, à la fin du film Jésus, leur a prêché en arabe. Formidable. Sauf que nous n'avons jamais continué. Et qu'à mon avis, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Si nous avions été sérieux, c'était simplement le début. Il fallait poursuivre. Et c'est souvent la difficulté de nos églises. C'est qu'on se lance dans des trucs qui sont sans lendemain. Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui en matière d'évangélisation, à votre avis ? Oui, alors effectivement, quartier libre, toutes les initiatives du genre quartier libre, donc on va dans un quartier, on fait des animations, à cette occasion on donne un enseignement biblique et on attire les parents ensuite. Ça marche très bien. Mais j'ai un de mes étudiants qui a fait ça avec l'Armée du Salut pendant plusieurs années dans une banlieue de Strasbourg et qui m'a dit « Étienne, je reviens convaincu maintenant qu'il nous a manqué une étape. C'est qu'après tout ce travail, nous aurions dû avoir le courage d'aller jusqu'à l'implantation d'une église dans cette cité. Et pour ne pas l'avoir fait, nous avons laissé s'effilocher le travail qui avait été commencé. » Alors, tu as dit, Isabelle, autre chose ? Alpha. Alpha marche du tonnerre. Qu'est-ce que c'est que le principe alpha ? Hein ? Le principe alpha, c'est de mélanger la convivialité d'un repas avec une présentation simple de l'évangile. Alors, alpha, à mon avis, peut être un peu adapté parce que c'est fait pour des gens qui ont une petite connaissance du christianisme et à qui on veut en donner une connaissance un peu plus grande. Et Alpha paraît catholique dans l'esprit des Français, mais sachez qu'Alpha n'est pas catholique. Alpha a été développé par une église anglicane charismatique. Il se trouve qu'en France, ce sont les catholiques qui ont pris le plus au sérieux cet outil et donc qui sont à la pointe de ce travail. Mais il y a, parmi l'équipe d'Alpha, des évangéliques et un certain nombre d'églises évangéliques l'utilise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez très bien faire alpha. Alors, ça demande un peu de travail, mais vous êtes sûr, nous, dans notre église, on l'a fait plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus dans l'église, et pas seulement dans l'église, ils sont venus au Seigneur avec ça. Hein ? Surtout que ça bénéficie aujourd'hui d'une couverture médiatique grande, hein ? Parfois même nationale. Parce que de plus en plus, ils font démarrer les cours alpha au même moment partout en France, pour que les médias en parlent. Donc, ça, c'est une bonne technique. Autre chose, qu'est-ce qui marche ? C'est tout ? Les groupes de maison. Alors, moi, je dirais, d'après mon expérience, ça marche si il y a dans ce groupe de maison quelqu'un qui prend les choses à cœur et qui a le sens des responsabilités. J'ai vu trop souvent dans les églises les groupes de maison comme des oreillers de paresse. C'est-à-dire, vous allez dans les foyers, dans les maisons, vous vous débrouillez, vous savez ce qui se passe ? 9 fois sur 10, on papote. On ne lit pas vraiment la Bible ou on ne l'étudie pas vraiment et on prie quand il reste un peu de temps. Pour moi, les groupes de maison peuvent être efficaces s'ils sont utilisés de façon volontaire, rigoureuse, avec des responsables, des gens qu'on forme et qui prennent ça à cœur. Mais c'est vrai que la convivialité de la maison peut permettre des rencontres qui n'existeraient pas. Il y a des gens que vous ne ferez pas venir ici, en tout cas pas au début. Est-ce que vous voyez autre chose qui marche ? Donc, Internet. Ouais. Ouais. Exact. Vous faites quelque chose ?
Pas encore. Moi, je pensais que ça rejoint Alpha, mais c'est non officiel, non organisé. C'est vraiment les relations personnelles, le contact, l'invitation comme ça, d'un moment convivial avec quelqu'un avec qui on peut commencer quelque chose.
Ouais. Mais vous savez, il y a un truc d'évangélisation qui marche toutes les années dans toutes les églises, c'est Noël. Je pense que si c'est pareil, vous ne savez pas où mettre les gens à Noël. Hein ? Vous avez des gens qui viennent, la tata, le grand-père et la petite cousine, parce que pourquoi ? Pourquoi ça marche ? Alors il y a deux raisons, c'est Noël, mais il y a aussi une autre raison, c'est que ce sont les gens de l'église qui font le spectacle, entre guillemets. Donc on vient les voir. Combien de fois en tant que pasteur j'ai fait venir de bons musiciens, style John Featherstone, Pierre Lachat, etc. Et j'étais fou parce qu'à la fin, les gens de mon église disaient « Ouais, c'était pas mal, si j'avais su, j'aurais amené des gens. » Et on avait mis des moyens, on s'était fatigué. Eh bien, j'ai fait autre chose. J'ai monté, alors pas moi tout seul, mais on a fait ça à plusieurs églises, et ce n'est pas moi qui dirige la chorale parce que ce n'est pas dans mes dons, moi j'étais plutôt le logisticien, on a monté les cantates de John Featherstone. Donc c'était la chorale des trois églises, Pentecôtiste, Libris, Baptiste, on a monté une chorale, on a fait la cantate, la première c'était Voici Noël. Eh bien, vous ne savez pas le monde qu'on a eu, mais pourquoi ? Ben justement, parce qu'il y avait la tata, le cousin, la grand-mère, la belle-sœur qui venaient voir chanter, qui venaient voir le petit télécrochet, là, des amis. Et ça a marché terrible. Parce que, voilà, tout le monde était impliqué et tout le monde se sentait concerné. J'ai même un des membres de mon église, à une de ces soirées-là, il y a 40 personnes de sa famille qui sont venues. Vous pouvez imaginer 40 ? Bon, ils sont 7 frères et sœurs, hein, mais voilà. Donc, ce qui marche là, c'est parce qu'on est investi. Alors, autre chose qui n'a par contre pas marché du tout, moi j'ai essayé, je me suis dit, ah, quand même, Pâques est beaucoup mieux que Noël au niveau du sens. Donc, j'ai fait la cantate de Pâques, j'ai fait un tas de trucs. À Pâques, le problème, c'est qu'il faisait beau et tous les gens, ils sont partis vers la mer. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, je pense que si... un de mes collègues qui est un implanteur d'église qui réussissait bien, c'est qu'il faut que vous pensiez l'évangélisation en termes de projet dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut qu'au-delà de la fête de Noël, vous ayez déjà un projet, et pas le Noël suivant, hein, ça c'est un peu trop loin. Hein. Il faut que vous ayez des projets auxquels vous puissiez accrocher les gens. Moi, mon collègue, ce qui marchait très bien, lui, il avait une réunion spécial d'évangélisation par mois. Et il donnait dans toutes les directions. Une fois, c'était un médecin qui parlait sur la dépression. La fois d'après, c'était un policier qui allait parler de problèmes de violence dans les quartiers. Hein ? Ou c'était un chanteur. Mais du coup, quand les gens venaient, ils savaient déjà ce qu'ils allaient pouvoir avoir la fois d'après. Et si tu veux, il entretenait une certaine fidélité dans la venue des gens. Alors ça nécessite quoi ? Ça nécessite qu'il faut que vous vous asseyiez et que vous commenciez à programmer les choses. Le problème, c'est qu'actuellement, vous faites la fête de Noël et quand c'est fini, vous dites « Voilà, ah, ouf !» Quand vous faites ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire que vous devez travailler différemment. Parce qu'il ne s'agit pas de vous relâcher. Et ça veut dire qu'en fait, votre événement 2, 3, 4, ils sont déjà dans les tuyaux quand vous avez fait la fête de Noël. Vous voyez ? Vous et puis après madame.
L'idée aussi, c'est le contenu ou le sujet. Il me semble que trop souvent, on vise des sujets spirituels, bibliques. On parle Noël, on parle pas.
Ouais.
Hein ? Et il faut qu'on soit dans l'actualité, ouais. Qu'on soit dans la proximité des choses des gens. Et trop souvent, on prend des thèmes sans, on a peur, on se dit, on va toucher ça, attention, comment on va le gérer. Puis il faut être libre dans ces sujets. Il faut qu'on soit audacieux un peu. Qu'on soit audacieux pour aller vers les besoins des gens, vers l'actualité des gens.
Alors, le 8 novembre, par exemple, à Chambéry, il m'invite, la pastorale m'invite. Et ils viennent de m'envoyer un message en disant « Est-ce que tu serais prêt à faire une table ronde avec deux politiques du secteur ?» Alors, ils m'ont pas encore donné le sujet. Mais ça peut être des occasions.
On est un peu frileux, des fois.
Un truc que j'ai fait moi aussi, avec les membres de l'Église, j'ai dit « Bon, on va parler de l'euthanasie, puisque c'était des questions qui traînaient déjà. » Donc, on a fait venir Robert Somerville. Bon, il n'est pas spécialement connu. Mais comme Albi n'est pas une grande ville, on a pris l'annuaire et puis on a écrit à toutes les professions médicales et paramédicales, On l'a fait à la main, hein, ça demande du temps. On a mis des invitations dans des enveloppes et on a invité ces gens en disant « mais ça devrait être un sujet qui les intéresse ». Il faut être un peu créatif, il faut inventer. Hein? Ah oui, oh, excusez-moi, oui. Ben oui.
Quand il y a une équipe qui après les concerts, qui est déjà une équipe derrière, voilà, pas attendre qu'une équipe se remette d'aplomb pour repartir.
Ouais. Suivi, quoi, parce que... Ça, et puis d'autre part, il faut que vous sachiez qu'on capitalise sur ce qu'on a fait. C'est-à-dire que quand vous répétez un événement, la première fois, il faut tout inventer. Hein. Et donc, c'est beaucoup de travail. Si vous capitalisez, c'est-à-dire que vous avez des méthodes, une certaine expérience, et du coup, la deuxième fois, c'est moins difficile. Parce qu'il y a des choses qui deviennent automatiques. Et d'ailleurs, la deuxième fois, vous commencez à améliorer certaines choses. Parce que vous pouvez tirer profit des leçons de la première fois, des échecs et des réussites. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça ne peut pas être une seule personne. Il faut que ce soit un groupe, et je dirais un groupe significatif de l'Église. Les parcours alpha, ça ne peut pas se faire chez une seule par une seule personne. Les parcours alpha, il faut que quelqu'un soit prêt à animer le temps de rencontre, mais il faut toute une équipe qui fasse le service. Parce que si les gens qui viennent à table, si ce n'est pas convivial, si en plus ils doivent faire la vaisselle après, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure manière de les faire revenir, de leur donner le torchon à la fin du... Vous voyez ? Donc il faut les accueillir, comme vous les accueillerez chez vous correctement. Ben, c'est toute une équipe au travail. Et ce qui est formidable, c'est que si vous mettez une équipe au travail, vous savez qu'on apprend à se connaître en travaillant. Alors de temps en temps, on voit aussi les choses... voilà, la vieille nature sort aussi quand on travaille ensemble. Hein, mais bon, ça fait partie de la vie. Alors, j'en ai entendu parler plusieurs fois... Je dirais qu'il y a une condition. Un, il faut que vous puissiez en faire une publicité dont personne n'a honte. Il faut que vous croyiez au sens collectif que le culte d'accueil va vraiment être un culte d'accueil et que vous n'allez pas vous dire « oh là là, la honte » par rapport à ce qui est en train de se vivre. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il faut que vous travailliez sur le vocabulaire. Parce que nous baignons dans un certain vocabulaire. Il y a des chants qu'on a chantés ce matin que je chante volontiers. Mais si vous expliquez pas à des gens qui viennent, ils disent « c'est quoi là ? Descend des cieux avec un ovni ?» ou... Vous voyez, donc il y a toute une pédagogie à mettre en place pour que les gens qui débarquent comprennent ce que c'est qu'un culte. Alors, il y a une autre expérience que j'ai faite, que j'ai trouvée très intéressante. J'étais pasteur de deux églises, dans deux villes différentes, mais j'avais un seul groupe de jeunes, de 25 jeunes. Et comme j'avais à cœur l'évangélisation, j'ai fait différents événements, j'ai essayé des semaines, j'ai essayé un tas de choses. Et j'ai observé une chose, c'est, vous savez, à l'adolescence... et la vingtaine, dans des petites villes, l'idée de se retrouver dans les rues devant les copains, moyen. Ce qui s'est produit, c'est que les jeunes de Carmo, parce que j'étais à Carmo et Albi, les jeunes de Carmo étaient très à l'aise quand ils allaient à Albi, parce que là, ils n'avaient pas leurs copains. Enfin, plus à l'aise. Et les jeunes d'Albi étaient plus à l'aise quand ils allaient à Carmo. Et du coup, j'ai observé une chose. Parfois, pour démarrer dans l'évangélisation, si vous avez l'occasion de faire une expérience hors de votre milieu, ça vous permettra de prendre de l'assurance. Et dans ce sens, moi, je crois beaucoup à ce que les églises s'entraident. Vous êtes quelques églises dans le pays de Gex. Pourquoi ne pas imaginer des choses ensemble ? Sans compter la bénédiction que le Seigneur fait reposer sur le fait que ses enfants s'unissent pour apporter l'évangile. Pourquoi vous n'iriez pas épauler l'église de Saint-Genis à Saint-Genis à charge de revanche. Vous voyez ce que je veux dire? Et je l'ai expérimenté dans un autre cadre, c'est dans un cadre international où nous faisions venir des équipes de chrétiens de plusieurs lieux d'Europe et des États-Unis. Ils découvraient, ces chrétiens, des occasions d'évangéliser hors de leur contexte habituel. Alors ça avait un double intérêt. Eux, en quelque sorte, bah, ils passaient, donc à la limite, s'ils étaient moins crispés. Et d'autre part, quand ils retournaient chez eux, ils étaient boostés pour l'évangélisation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous raconte juste une anecdote assez étonnante. J'ai donc collaboré avec un certain Jerry Bird du Texas qui organisait ces campagnes. Et figurez-vous qu'un jour, il a dit à un paysan du Texas, dont la femme venait régulièrement dans ses campagnes, il a dit « Écoute, maintenant c'est ton tour ». Et ce gars, qui semble-t-il était un introverti taciturne qui ne disait pas grand-chose, a donc accepté d'aller à Rome dans ses équipes pour faire de l'évangélisation. Et comme il n'était pas très à l'aise pour parler, eh bien, il a préparé un petit témoignage pour une des soirées. Mais l'émotion l'a tellement saisi quand il a voulu témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie, qu'en réalité, il a en gros commencé avec des trémolos dans la voix. Très vite, il n'a plus pu parler et il a simplement dit « J'aime Jésus ». Et il est allé se rasseoir. Or, figurez-vous que dans la salle, il y avait un homme qui avait milité dans les Brigades Rouges. Vous vous souvenez des Brigades Rouges? Terroristes, hein, en Italie, qui ont fait des dégâts considérables. Hein. Et le gars était tellement touché par l'authenticité de ce témoignage maladroit qui s'est donné au Seigneur. Incroyable. Incroyable. Et c'est ce que je vous disais ce matin, il n'y a pas besoin dans le témoignage d'être ces super orateurs, hein, ni d'être des super théologiens. Racontez simplement ce que Christ a fait dans notre vie.
Questions ou des commentaires que l'un ou l'autre voudrait faire ? Bien, en tout cas, je crois que dans tout ce qui a été dit cet après-midi, il y a vraiment beaucoup de matière à réfléchir avant qu'on fonce et aller devant. Je crois que les textes avec lesquels tu as démarré sont des textes extrêmement importants aussi pour fixer notre attitude et notre perspective sur l'évangélisation. Et je crois qu'en tous les cas, il va falloir qu'on mette la main sur ton texte pour ressortir de la matière et la retravailler aussi avec nos amis de la commission évangélisation. Mais ça va nous aider aussi à donner de la perspective à des initiatives que nous avons prises jusqu'à présent, qui recoupent certaines dont tu parles. Et qui, dans tous les cas, je crois que ça nous donne, je crois encore, un bon rappel de pourquoi notre Église existe. Elle existe aussi pour rayonner et pour apporter cette bonne nouvelle. Et je crois qu'en tous les cas, une des premières choses qu'il faut qu'on retienne de cet après-midi, c'est que si nous avons personnellement et collectivement une vision que nous bâtissons notre Église entre ces quatre murs, on se fourvoie. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer longuement cela, mais je crois que c'est à chacun d'entre nous d'y réfléchir lorsque nous participons à la vie de notre Église, les décisions que nous prenons, comment nous nous impliquons. Si en fin de compte, on est en train de bâtir notre propre confort et le plaisir d'avoir nos propres locaux et d'être la belle Église de Préfecin, ben, on n'est pas engagé dans la bonne voie. On n'est pas engagé dans la bonne voie. Moi, ce qui m'a beaucoup encouragé aussi, ce que disait Étienne par rapport à tous ces liens familiaux et d'amitié qui par ailleurs, sont des moyens privilégiés par lesquels les gens entendent l'Évangile. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans cette Église, je l'ai dit et je l'ai répété, mais beaucoup le disent avec moi aussi, c'est que cette Église est beaucoup plus que les 30-40 que nous sommes ici. On a essayé d'estimer une fois un peu le nombre de personnes qui sont liées par amitié, par famille, à nous tous ici, et on est combien ? 500, 600 ? 700 si on regroupe avec Saint-Genis et des choses comme ça. Cette possibilité de rayonnement est absolument formidable aussi. Et donc là aussi, de porter dans la prière ces relations familiales et amicales que nous avons et qui sont peut-être depuis de longues dates aussi, mais où déjà le Seigneur nous a placés à la croisée de ses chemins et où beaucoup de choses peuvent être faites aussi. En tout cas, Étienne, un grand merci. Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais. Il y a une chose qu'on peut faire, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'Église, il y a des personnes à évangéliser. Ce sont nos enfants, nos adolescents, nos jeunes. Il ne faut pas les oublier. Et j'avais un souci quand j'étais pasteur, c'est que c'est très classique, il y avait deux églises. Il y avait les jeunes, il y avait les autres. Les jeunes avaient leurs activités, c'était super, etc. J'étais avec eux, ils étaient contents. Mais déplacer les jeunes, déjà le dimanche matin, c'est un peu dur, mais alors en semaine, difficile. Et j'entendais de la part des aînés des choses profondes spirituellement. Et je me dis, mais comment faire pour les rapprocher? Et voici l'idée. Alors, on peut faire l'incruste, hein, mais dans ce cas-là, il faut utiliser l'incruste pour faire parler les gens qui nous accueillent. Mais je le faisais de la façon suivante. Je crois que c'était une fois par mois. J'invitais un membre de l'Église dont je savais qu'il avait quelque chose à dire sur le plan du témoignage aux jeunes. Et je disais aux jeunes, voilà, le principe, c'était toujours la même règle du jeu, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à cet aîné, homme ou femme, mais bien sûr, il a un joker. Parce que vous savez, les jeunes, si vous les laissez dire, il y a eu des fois des questions un peu indiscrètes. Pour éviter qu'on se retrouve en chien de faïence, parce que c'était le risque, hein, c'est-à-dire le gars est là, ils ne le connaissent pas très bien, il est un peu impressionnant, et les jeunes ne disent plus rien, on préparait les questions à l'avance. C'est-à-dire qu'on avait le groupe de jeunes, et on demandait à la personne, par exemple le membre du conseil, l'ancien, de venir trois quarts d'heure après le début du groupe de jeunes. Et en fait, je prenais 15 à 20 minutes avec les jeunes pour dire, mais c'est quoi les questions que vous voulez poser? Et on les écrivait sur un tableau. Ce qui fait que là, il se lâchait. Il n'y avait personne, il se lâchait. Et moi, j'avais mes questions. Alors, je ne les posais pas à leur place. Quand la personne était là, je leur demandais de les poser, mais je pouvais les récupérer si je sentais que ça avait un peu du mal à venir. Et comme ça, des membres de l'Église ont pu témoigner de leur itinéraire de foi aux jeunes qui ont découvert plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les jeunes ne savaient même pas comment leurs aînés s'étaient convertis. C'est dommage. C'est dommage, parce que eux, ils sont, certains sont déjà convertis, mais d'autres pas, ils ont besoin de connaître ces histoires-là. Et là, très naturellement, ça se faisait, et du coup, ils découvraient, et je l'ai fait aussi au cours des repas boule de neige. Je pense que vous connaissez aussi la formule, c'est-à-dire que je faisais un peu la même chose, mais on s'incrustait chez les gens, mais du coup, je disais, bon ben maintenant, raconte-nous comment tu t'es converti, ou bien comment... le Seigneur t'a délivré de telle situation. Alors là, j'étais un peu plus directif. Mais ça vaut la peine de travailler ce genre de choses parce qu'il ne faut pas délaisser à l'intérieur de l'Église ceux qui ont besoin de se tourner vers le Seigneur. Voilà.
Alors Étienne, un très très grand merci.
Avec plaisir.
J'espère que d'une façon ou d'une autre, peut-être de façon indirecte aussi, tu repartiras avec quelque chose qui t'enrichira toi aussi sur la perspective des évangéliques en France, jusque dans les coins reculés comme le pays de Gex, mais aussi le souci que nous avons de rayonner ici de l'évangile dans le pays de Gex, et aussi le souci que nous avons d'appartenir à tous ceux qui font ces efforts de témoignage ailleurs, et que par le don que nous faisons tous les ans pour 1 pour 10 000, c'est aussi cette vision que nous avons, et c'est ce que nous avons à cœur, c'est de porter notre pays aussi dans la prière et dans ce rayonnement. Donc si jamais tu rencontres des implanteurs d'église, dis-leur qu'il y a une église dans le pays de Gex qui a ça à cœur aussi. Et peut-être tu nous as interpellés aujourd'hui, et puis nous aussi on réfléchira de notre côté s'il y a quelque chose de plus que nous devons faire et auquel le Seigneur nous appelle. Et j'aimerais peut-être demander, Jean-Paul, est-ce que tu voudrais prier pour nous à la fin de ce week-end et remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a enseigné, mais aussi remettre Étienne, son ministère, ses collègues avec lui un petit peu, et tout ce travail de funambule qu'ils doivent souvent faire en France.
Père, Père, nous voulons ensemble te remercier pour ce temps passé avec toi, passé plus près de toi peut-être, entre nous. Et on veut te remercier pour ce qu'Étienne nous a apporté, pour ce qu'il nous a apporté comme piste. Mais des pistes, c'est des choses qui sont faites pour être employées, pour être marchées dessus. Et on veut te prier pour que nous puissions marcher sur ces pistes. On veut te remercier parce que tu as donné des dons aux uns et aux autres. On veut te remercier parce que tu as donné à Étienne ce don de communiquer et ce don de peut-être de diriger ou de voir ou de penser plus loin. Et on veut te remercier parce que tu le mets au service des églises comme la nôtre, comme d'autres aussi. On veut te prier pour tout le peuple, si on peut appeler ça comme ça, le peuple évangélique de notre pays, pour ses relations de laïcité avec les autorités, quelles qu'elles soient, les endroits où c'est compliqué, les endroits où ça va mieux. On veut te remercier pour les contacts qu'on a pu avoir avec le maire de notre commune et de se retrouver sur la même longueur d'onde, pratiquement, avec les mêmes soucis. Et on veut te prier qu'on puisse rester dans ton chemin à toi, dans ton plan à toi, en écoutant autour de nous, en vivant autour de nous, simplement, en vivant ce que toi, tu nous as laissé, ton amour, ton partage, ta miséricorde. Seigneur, aide-nous à penser aux autres plus qu'à nous-mêmes. Aide-nous à nous approcher de notre voisin. Quand on est à l'école du dimanche, on apprend quel est notre prochain, cette grande question, ce mot bizarre. Et tu mets devant nous tous nos prochains et on veut te prier qu'on puisse les rencontrer là où toi tu nous mets. Seigneur, bénisse cette fin de dimanche. Nous te prions pour le retour d'Étienne et pour son travail. On te remercie pour les contacts aussi, ou dans le cadre du CNEF ou de son institut, il travaille aussi pour les autres. Et on veut vraiment te demander de le bénir et de le garder, qu'il puisse être ton témoin là où tu le mets, partout où tu le mets. Seigneur, on a besoin de ta bénédiction et on veut te demander de nous garder, d'être auprès de toi chaque jour.
Bon retour à chacun. Et puis si vous avez encore quelques questions, Étienne a encore un peu de temps avant son train, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à acheter les livres là-bas au fond si vous le souhaitez. Mettez l'argent dans la petite boîte. Les prix sont indiqués sur les livres.